Et bien donc bienvenue à chacune, chacun d'entre vous, puis bonne année, excellente année, et pleine de bénédictions, c'est-à-dire pleine de bonnes surprises en fait, inattendues. J'aime beaucoup les bonnes surprises. Non ?
Et les bonnes nouvelles.
Les bonnes nouvelles aussi, oui. Bonnes nouvelles, bonnes surprises. Hein. Voilà. Donc on vous propose de poursuivre cet itinéraire sur prenez et mangez, donc avec un banquet de noces et puis deux pique-niques sur l'herbe verte pour agrémenter. Alors c'est des textes qui sont plus qu'hyper connus, donc ça peut être peut-être l'occasion d'échanger un petit peu aussi sur ces textes, hein, et puis de voir sur ce thème de prenez et mangez, qu'est-ce qu'on peut découvrir en fait quand même sur le prenez et sur le manger du salut qui nous est donné en Jésus-Christ. C'est vrai que je pense là, il y a quelque chose quand même à découvrir sur le salut comme le fait de prendre et de manger ce que Dieu nous donne. Parce que si vous voulez, l'autre jour, j'entendais encore un culte protestant pourtant, et... Et il était souvent question, dit voilà, le Christ a payé sur la croix pour nous, donc on a un peu moins peur du Dieu Père, qui est peut-être des fois, bon, il est souvent, des fois il peut être un peu en colère, alors on a un intercesseur auprès du Père, alors bon, c'est quand même une question. De quoi on est sauvé ? Est-ce que c'est comme ça finalement, grâce à un intercesseur, grâce à des sacrifices, Dieu peut se convertir et nous aimer enfin. Donc c'est un salut qui est complètement extérieur, qui est au ciel. Ou bien peut-être comme Jean-Baptiste, hein, puisque c'est... Je travaille là-dessus pour dimanche prochain, en fait. Donc avec le lavage externe, finalement. Donc on pourrait dire une purification extérieure, un lavage externe. Dans le prenez et mangez, on voit quand même que c'est plutôt un salut qui est intérieur finalement. C'est ni au ciel que ça se passe, ça je pense que Dieu n'a pas spécialement besoin de se convertir, bien qu'il doit quand même évoluer aussi puisqu'il est vivant je pense, mais bon c'est une autre question. C'est pas simplement une idée de lavage externe, comme si on était souillé, comme si on était impur, comme si on était sale, indigne ou je sais pas quoi. C'est plutôt une transformation intérieure. Et donc là, c'est bien ça dont il est question, à mon avis, quand même, dans ces histoires de repas, de banquets. Alors, dans l'idée des noces, peut-être qu'il y a... Dans le banquet, dans le vin, il y a l'idée aussi de quelque chose qu'on doit ingérer pour... et le Christ est partie prenante de ça. Dans l'idée des noces, on pourra discuter, savoir qui sont les mariés finalement, mais les noces, il y aurait l'idée peut-être d'une alliance quand même. Donc c'est un élément du salut aussi, cette alliance, cette réconciliation avec Dieu, ce partenariat avec Dieu, avec le Christ. Dans le pique-nique, l'idée de prendre... que le Christ nous donne, et puis ensuite d'être des démultiplicateurs de ça. Là aussi, c'est une transformation dans notre façon d'être, peut-être, je ne sais pas. Enfin bref, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à aller chercher dans ces textes pour voir comment le salut fonctionne, finalement. Comment s'en saisir, le prendre, comment se laisser vraiment vivifier, transformer... grandir par cette nourriture, quoi.
Oui, je reprendrai, merci de ton accueil, je reprendrai volontiers l'idée de salut, et à travers la nourriture, c'est intéressant parce que j'entendais une énième intervention, vous savez, de Frédéric Lenoir à la télévision, cet expert autoproclamé du religieux universel, qui est un homme intéressant, qui est honnête intellectuellement, qui a une pensée un peu journalistique, mais qui écrit des gros livres sur les religions, il a dirigé Le Monde des Religions, et là il est dans une émission canadienne, et il reprend, vous savez, cette distinction assez classique depuis le siècle des Lumières entre la religion et la spiritualité. Alors vous savez, ça plaît beaucoup à la pensée bobo parce que la religion c'est mal, parce que c'est du côté du pouvoir et puis c'est du côté de ce qui cloisonne, de ce qui oppose. Et la spiritualité c'est formidable parce que voilà, ça nous réconcilie avec la verticalité, etc. C'est un peu facile parce que évidemment c'est pas faux. Et puis moi-même j'utilise quelquefois cette distinction quand je suis face à quelqu'un qui recommence, qui sait pas trop comme, par quel bout prendre les choses. Mais la religion aussi c'est une dimension anthropologique qu'il faut honorer, qui existe dans l'homme et qui est peut-être la plus complexe et la plus haute chez l'humain. Et la spiritualité, à rebours, menace toujours d'être un peu désincarnée. Quand les gens vous disent « moi je suis en recherche de spiritualité », ça peut être aussi une façon de se désincarner. Et le chrétien, dans la bonne nouvelle qu'il annonce, puisqu'on parlait de bonne nouvelle, c'est quand même le mystère de l'incarnation que nous venons de fêter dans la fête de Noël, de l'Épiphanie. C'est quand même l'idée d'un Dieu qui se rend tangible, visible, qu'on peut toucher. Et la crèche, comme la croix d'ailleurs, sont quand même très incarnées. Hein, il n'y a pas plus incarné que la mangeoire en plus. Voilà. Et puis le supplice par lequel Jésus est mis à mort. Donc il y a toujours une ambiguïté avec la spiritualité. Et je dirais qu'une religion d'incarnation, parce qu'il faut quand même dire que le mot religion est un mot noble. On ne peut pas laisser dire et laisser croire que le mot religion, c'est forcément du côté du pire, de l'identitaire et uniquement du côté du passé, des héritages, des traditions fossilisées. Il y a quelque chose de noble dans le mot religion. D'ailleurs, on parlait de... à la Renaissance, Érasme, Luther, qui parlent de la philosophie du Christ, on sent bien qu'ils sont embarrassés déjà au XVIe siècle, avec la première modernité, par le mot religion. Mais il faut réhabiliter le mot. Je crois que, évidemment, il ne faut pas réduire la religion à des rites et des croyances irrationnelles. Mais il faut lui redonner ses lettres de noblesse. En tout cas, l'opposition religion-spiritualité, pour moi, c'est quelque chose d'assez artificiel. En tout cas, une spiritualité qui serait désincarnée, qui serait un besoin de désincarnation, c'est hautement suspect. Et c'est pour ça que je trouve intéressant de parler de nourriture. Parce que dans la nourriture, il y a deux choses. Il y a l'idée que le salut, c'est de venir combler un manque, et que Dieu nous sauve en venant quand même nous rassasier, nous combler. Et puis il y a l'idée du banquet eschatologique. Donc il y a une dimension communautaire. Il y a une communauté d'existence qui fait quand on partage un repas avec quelqu'un, c'est formidable. Pas seulement un réveillon, même un petit moment comme ça, un petit plaisir de la vie dans un bistrot. Il y a quelque chose qui est presque de l'ordre du religieux, justement. Alors, voilà. Moi, ça m'a frappé. Je crois que je l'avais dit en tout début de parcours, là. Quand on tape « nourriture Bible » dans Google, on est effrayé. Ou « alimentation » ou « manger dans la Bible ». Tapez et faites l'expérience. Tapez « manger dans la Bible », vous allez voir que les sites... qui apparaissent sont uniquement des sites sur le pur et l'impur, sur ce qu'on peut manger, sur ce qu'on a le droit de manger. Donc les gens sont fascinés par ça.
Sur du religieux.
Oui, mais du religieux au sens, évidemment, mais on s'entend, au sens, oui, bien sûr, au sens légaliste. Mais la religion, ça ne peut pas être que l'extériorité et la spiritualité, l'intériorité. Ce serait trop facile, parce que dans ce cas-là, bien sûr... Mais on tombe uniquement sur ça. Qu'est-ce qu'on peut manger? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on mange? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans son assiette? Et c'est assez terrible. Ça en dit long sur notre postmodernité qui cherche justement mais un religieux presque sauvage, un religieux qui est le pire du religieux, c'est-à-dire l'archaïque total. Alors, qu'il y ait des interdits alimentaires, ça fait la grandeur de certaines religions, bien sûr. Mais les rabbins s'en expliquent. C'est pas une question, c'est pas pour empoisonner les gens. C'est pour les inviter à sortir de la pulsion, les inviter à sortir de la nourriture comme uniquement phénomène de survie, hein, animale. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant. Mais Mais voilà, il y a toute une démarche et puis il faut toute une éducation à ça. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu étonnant de voir que lorsqu'on associe la pensée biblique et la nourriture, c'est uniquement en termes de... Voilà. Et ça, je terminerai juste en disant que du coup, le diktat autour de ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger pour ne pas avoir le cancer, pour ceci, cela, est-ce qu'il faut être vegan, est-ce qu'il faut être organic food, etc. Bah, c'est un peu la même chose. C'est aussi du religieux au sens j'ai envie de dire, méchant, bête et méchant du mot. Voilà. Mais autrement, il y a du religieux qui n'est pas bête et méchant. Voilà.
Non, mais c'est-à-dire que c'est vrai que tout dépend le statut de la religion dans ce parcours de salut. C'est-à-dire qu'on est d'accord, on peut. Donc est-ce que c'est bon, nous ce qu'on dirait plutôt, hein, c'est que la religion, le religieux, c'est quand même une étape, c'est une préparation, et que c'est pas l'alpha et l'oméga de la relation à Dieu. C'est plutôt une préparation, c'est plutôt un exercice en vue de. On compare volontiers la religion à une salle de musculation. C'est vrai que si on ne fait pas d'exercice, on ne sera pas en forme. Mais en même temps, l'exercice, c'est pour être en forme. La vie n'est pas faite. Quand Jésus parle du sabbat, c'est l'archétype même de la religion à son époque. Puisque c'est l'acte religieux dont il est question dans le décalogue. Il n'y a pas plus essentiel, fondamental. Donc il dit. Le sabbat est fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. Donc, à mon avis, c'est le fond de la question. L'homme n'est pas fait pour la religion. La religion est faite pour l'homme, elle est faite pour le développement de l'homme. Donc, la religieuse, à mon avis, il est quand même. Pour moi, c'est un exercice. C'est comme l'exercice pour la santé du corps. C'est indispensable, mais ça doit rester de l'ordre de l'outil, du moyen. Et donc, c'est un peu besogneux, c'est un petit peu. C'est un peu cet effort d'incarnation. Bon, ensuite, ou alors cet effort de nourriture, cet effort de purification, cet effort de collégialité, de chercher Dieu ensemble, pas simplement tout seul. Donc, oui, donc la religion a une vraie place. En même temps, c'est pas le sommet de la vie de l'homme, à mon avis. C'est là que si on la sacralise trop, à ce moment-là, ben, on dit à l'homme, on dit ben, l'homme est fait pour la religion. Eh bien, je crois pas, en fait.
Oui, mais tu sais bien que là, c'est une question de mots. Prenons un
Ah
grand protestant, Kierkegaard.
oui.
D'abord, vous savez, dans les trois stades de la vie, chez Kierkegaard, il y a le stade esthétique. Le stade esthétique, c'est le stade érotique, c'est le stade du désir. On croit qu'on est tout-puissant et on cherche donc à sentir le plus possible, à multiplier les expériences et à s'accomplir. Bon. Vient ensuite le stade éthique. Chez Kierkegaard, le stade éthique, c'est bah, il y a une vie à construire, il faut choisir, il faut faire des choix, il faut réduire la voilure, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout sentir, on ne peut pas être comme Don Juan dans l'illusion de la toute-puissance. Et donc, il faut choisir un métier, il faut choisir un état de vie, on vit avec quelqu'un, etc. Ça, c'est le stade éthique. Et pour lui, le troisième stade, c'est le stade religieux. C'est dans ce sens-là que je l'entends. C'est pas au sens de la
Ben
religion,
oui, c'est ça, la
au
question.
sens des bouquins sur les religions. Parce que là, effectivement, du coup, on est dans le consumérisme ou dans la religion au sens de, voilà, chacun choisit sa religion, on prend un peu de ceci, un peu de cela. Et ça, c'est pas très intéressant. Parce que là, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais simplement, je partais de l'opposition entre spiritualité et religion. Et je pense qu'elle est factice. Mais évidemment, on voit très bien ce que Frédéric Lenoir veut dire.
Mais qu'est-ce que tu entends par religion? Religion,
Bah,
c'est quand même c'est le religieux. Le religieux, c'est le culte, c'est l'étude biblique qu'on est en train de faire, c'est la prière même.
Mais c'est
Voilà.
pas une fin en soi.
C'est pas une
C'est
fin en soi.
effectivement. Mais chez Paul, par exemple, on va revenir au texte, hein, rassurez-vous. Mais c'est un débat intéressant parce que. Mais moi, c'est mon côté, je pense. Dès que je sens qu'il y a un trop grand consensus autour d'une notion, voilà, j'ai
Complexifions les choses.
Non, c'est pas
Non,
ça,
mais il
mais
faut, je crois,
j'ai des clignotants qui s'allument.
Non, mais il faut
Et
complexifier les choses.
voilà.
Hein, voilà. C'est des trop simples, c'est souvent.
Parce que c'est une opposition qu'on entend sans cesse. Et je la trouve trop confortable pour être pour être honnête, parce qu'elle est presque un peu. On voit bien que beaucoup d'historiens des religions ont interprété comme ça le clivage catholique et protestant. Le catholique étant du côté de la religion, il est englué dans des rites et il est dépendant de symboles, d'images. Et puis le protestant, lui, est émancipé de tout ça. Historiquement, c'est pas tout à fait faux, mais tu vois bien
Mais
que
c'est pas vrai non plus,
c'est
puisqu'on a
pas
les mêmes
vrai.
rites finalement, en gros.
Oui, mais
C'est le statut du rite, peut-être, un petit
tu sais très
peu.
bien que
Ouais.
c'est comme ça que c'est expliqué dans la Vulgate.
D'ailleurs, ça sera dans le sujet, puisqu'il est question de transformer les jarres de purification, l'eau de l'histoire des jarres de purification dans les noces de Cana, en vin. C'est bien en rapport avec ça. Ça n'empêche que c'est. Il aurait pu faire venir du vin en claquant des doigts, et il le fait à partir quand même, à partir de l'eau des jarres de purification. Donc, la religion, la purification, les jarres et tout, c'est quand même une étape première. Hein.
Oui.
Il en a besoin quand même, il en a besoin quand même pour faire son vin.
Oui, si ce n'est que l'homme d'aujourd'hui, au fond, son rêve, c'est de transformer le vin en eau. Moi, c'est ce qui me frappe dans cette espèce de puritanisme nouveau, c'est plutôt les gens qui disent, qui vont faire l'éloge de la détox, il faut absolument, voilà, et donc à la limite, le vin, c'est pas bien parce que, voilà. On sait où ça mène, alors que l'eau, c'est la pureté. Et moi, je vois un peu les choses comme ça. Dans la quête spirituelle, j'ai l'impression que les gens veulent transformer le vin en eau. Et moi, je veux pas. Moi,
Ou
je
alors du
veux que l'eau se transforme en vin.
spirituel pur, de claquer dans les doigts que le vin va y venir comme ça. Ben, en fait, pas
Oui.
forcément. Ça peut arriver, mais en général, il faut quand même passer par les jarres.
Tout
C'est un
à fait.
peu humiliant.
On lit le
Enfin, on peut lire
texte.
le texte quand même. Quoi?
Passer par les raisins d'abord.
Oui.
Exactement. Ouais, ça, c'est une bonne remarque.
Oui.
Hein. Il faut d'abord passer par les raisins,
Il faut veiller sur eux.
ce qui est pas complètement évident parce que les séparer les raisins, ça pousse pas tout seul non plus, normalement. Qu'est-ce qui nous lie alors le banquet de noces? Ah, merci beaucoup, Jean-Claude.
Alors, c'est dans Jean 2. Or, le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus lui aussi fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit: Ils n'ont pas de vin. Mais Jésus lui répondit: Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: Quoi qu'il vous dise, faites-le. Il y avait là 6 jarres de pierre destinées au rite juif de purification. Elles contenaient chacune de 2 à 3 mesures. Jésus dit au serviteur: Remplissez d'eau ces jarres. Et ils les emplirent jusqu'au bord. Jésus leur dit: Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent et il goûta l'eau devenue vin. Il ne savait pas d'où il venait, à la différence des serviteurs qui avaient puisé l'eau. Aussi, il s'adresse au marié et lui dit: Tout le monde offre d'abord le bon vin, et, lorsque les convives sont gris, le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Après quoi, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples. Mais ils n'y restèrent que peu de jours.
Voilà.
Le rite de purification est fait avant le repas. Donc, ce n'était pas de l'eau propre.
Sauf qu'ils étaient vides et ils les remplissent d'eau, en fait.
Oui,
donc,
non,
ils vont à la source remplir un peu.
Elle contenait chacune.
C'était la contenance.
Oui,
alors c'est vrai que ça, c'est quand même, ça fait quand même pas mal parce que.
Oui.
Donc je suis allé chercher pour m'amuser, hein, mais.
Ah oui, c'est énorme.
Une mesure, c'est 40 litres d'eau.
Oui.
Donc 2 à 3 chacune, donc ça fait 100 litres, mettons.
Oui.
6 jarres, ça fait 600 litres, ça fait
Six.
800 bouteilles de Château Pétrus. Faut commencer. Oui, à voir les choses.
Oui, sans compter que le bon vin à l'époque était très.
Ah oui, c'était alcoolisé.
C'était costaud, hein, ouais, puisqu'on le coupait d'eau.
Bon vin. C'est du bon vin, c'est pour ça que je dis, c'est quand même. C'est pas. Voilà, c'est du. C'est du oui, c'est vraiment. Pour ça, je dis du Château Pétrus, hein, je sais pas, ou du Wickham, hein, c'est peut-être du vin blanc, je sais pas. Donc.
C'est le premier signe de Jésus. Dans le livre, dans l'évangile de Jean.
Voilà.
Vous savez, peut-être qu'on voit souvent l'évangile de Jean, qui est le plus tardif. Enfin, un jour, peut-être, on fera le point sur tout ça, parce que c'est pas simple, la rédaction des évangiles. Vous savez que pendant longtemps, enfin, je dirais, la tradition classique, c'était de croire que l'auteur était un témoin oculaire, était un apôtre. Donc, on accordait un grand crédit biographique, si je puis dire, à Jean. Puis il y a eu la tentation et la tendance inverse au XXe siècle, avec Bultmann, de dire que finalement Jean, comme c'est tardif et comme c'est pas superposable aux autres évangiles, c'est pas du tout historique, c'est pas aussi fiable, c'est une réflexion théologique issue de la prédication, du coup, voilà, on a vu chez Jean, finalement, de la fiction. Et la tendance actuelle, c'est plutôt c'est la tendance de Charles Dodd, de cette école-là, et puis de Raymond Brown aussi, c'est de voir quand même, dans l'évangile de Jean, des éléments qui sont extrêmement fiables au plan... De la proximité avec les événements historiques, mais simplement ils ne sont pas issus de la même source, ils sont issus d'une autre source qui n'est peut-être pas apostolique. Et donc la communauté joannique a finalement sa propre tradition qui s'est élaborée dans un langage différent, etc., qui a eu sa propre prédication ecclésiale, qui a fini par être couchée par écrit et rédigé par un scribe, qu'on va appeler Jean, si vous voulez, et qui lui donne un style très solennel, très grandiose, très, très grec, très littéraire. Mais ça ne veut pas dire que les éléments, que le matériau biographique serait moins fiable que dans les autres. Voilà. Alors, en revanche, l'évangile de Jean, c'est un diptyque. Vous avez le livre qu'on appelle quelquefois le livre des signes, où il y a sept signes. Jean ne parle jamais de miracle. Il ne dit jamais dunamis. Il dit toujours séméion ou ergon, les œuvres ou les signes. Et il y a le deuxième livre, c'est la passion, c'est le livre de l'heure, ce qu'on appelle le livre de l'heure. Vous savez, lorsque l'heure fut venue de passer de ce monde à son père, Jésus... quelle est la phrase? C'est au chapitre 13 de Jean. Lorsque
il y a un comble à tout, enfin,
c'est magnifique. L'heure fut venue où Jésus allait passer de ce monde à son Père, il aima les siens et il les aima jusqu'au bout. Voilà, au chapitre 13. Donc, du chapitre 13 jusqu'à la fin, vous avez un deuxième livre. Il y a deux livres, le livre des signes et le livre de l'heure. L'heure, le kairos, hein, le moment donc de la révélation. C'est pour ça que Jésus dit d'ailleurs « Mon heure n'est pas encore venue ». C'est bien en lien avec cette heure qui est la manifestation par l'élévation sur la croix. Et alors, parmi les sept signes du livre des signes, donc la première partie du diptyque, vous avez les noces de Cana. Voilà. C'est intéressant parce qu'on est à l'épiphanie, et pour les orthodoxes, l'épiphanie, c'est trois récits. C'est les mages, le baptême et les noces de Cana. Les noces de Cana est un récit d'épiphanie pour nos frères et sœurs orientaux.
Oui, donc là, c'est vrai que le premier signe, c'est un peu le moment où il va devenir, il va entrer dans son ministère finalement. Bon, ce qui est un peu bizarre, c'est le « or » le troisième jour. Bon, il faudrait lire juste ce qui est avant, parce que sinon, le « or » n'a pas trop de sens. Hein. Juste avant... Donc à la fin du chapitre 1, il y a Jésus qui dit « en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Donc c'est une référence à Jacob avec les anges qui montent et qui descendent au-dessus. Alors le Fils de l'homme, ça peut vouloir dire le Messie, mais ça peut vouloir dire simplement une personne normale, fils d'Adam finalement, parce que Fils de l'homme c'est Ben Adam, ça veut dire fils d'Adam, fils du terreux, du terrien. Donc 9 fois sur 10 dans la Bible hébraïque, Fils de l'homme, ça veut dire un humain normal. Et puis quelques fois dans des prophètes tardifs, ça peut vouloir dire le Messie. Donc il y a cette ambiguïté qui est intéressante, parce que là, le Messie est un mec normal, comme dirait Coluche en fait. Donc c'est un peu ce que ça veut dire finalement, cette expression d'appeler le Messie Fils de l'homme, plutôt que de l'appeler le Messie, le Christ ou je ne sais pas quoi, c'est quand même un peu connoté. Et puis c'est en vérité, c'est extrêmement solennel. Amen, amen, je vous le dis. Et donc le ciel ouvert, les anges de Dieu qui montent et qui descendent, c'est la promesse d'avoir cette sorte de ligne directe entre le Christ et Dieu, cette sorte de communion entre le Christ et Dieu, mais aussi entre chaque humain, chaque fils ou fille d'Adam et Dieu lui-même, avec un peu comme Jacob, Jacob, c'est dans l'Ancien Testament, on l'avait vu hein, dans Ésaïe et Jacob, c'est la figure vraiment de l'homme parfait, de l'homme accompli, hein, de l'homme spirituel, si je puis dire. Donc là, le troisième jour, ça commence le troisième jour après ça, finalement. Le troisième jour, on n'en a rien à faire, ça n'a pas de sens. Donc, comme souvent, quand on a ces chiffres qui n'ont pas tellement de sens ou d'utilité, ça exprime du sens. Donc le troisième jour, bon, on le connaît pour la résurrection, ça fait effectivement, c'est aussi là des clins d'œil, si vous voulez, à l'autre versant de cet évangile. Mais le troisième jour, c'est le temps d'une résurrection, c'est le temps de s'ouvrir finalement à la vie divine. C'est assez quand même solennel de dire ça, que ça arrive le troisième jour, ce qui va commencer à nous être raconté. Ça veut dire que c'est de l'ordre un peu de la vie ressuscitée, si je puis dire. Alors il y eut une noce. Comme je vous disais en introduction, on ne sait pas qui se marie avec qui, si vous voulez. Si ce n'est que... C'est un thème extrêmement classique, les noces, c'est les noces entre Dieu et son peuple, entre Dieu et la personne humaine. Et à mon avis, c'est ce qui est en cause ici. Alors, qui se marie? Des fois, on dit que le Christ est l'époux, qui est fiancé à l'humanité, dans un sens. Hein, donc, c'est un peu ça. Sauf que là, Jésus, il est invité. Donc, c'est plutôt des noces entre, j'allais dire, entre Dieu et Marie, hein, peut-être, dans un sens, puisque effectivement, elle n'est pas vraiment invitée, elle est là, finalement. Hein. Ou en tout cas, bon, à mon avis, c'est une noce, c'est nous qui sommes le fiancé de la noce, dans un sens. Et c'est une bonne idée d'avoir invité Jésus à cette noce, hein, je pense. Si vous voulez, rien dans ces textes si denses, rien n'est là pour rien, quoi, en fait. Donc, c'est quelque chose qui nous est proposé. Alors, la mère de Jésus, à mon avis, dans l'évangile selon Jean, c'est vraiment une figure du disciple. Elle est tout à fait au début, et là, il y a quelque chose d'extraordinaire dans le circuit de Marie, c'est-à-dire qu'au début, elle est la mère de Jésus, et à la fin... Elle devient disciple, ce qui n'est pas évident du tout, si vous voulez, évidemment. C'est la même question. Dans un certain sens, nous, à travers notre religion, peut-être, on peut avoir l'impression de s'être fait soi-même, d'avoir fait notre religion, d'avoir fait notre foi. Mais peut-être que, comme Marie, on peut avoir cette humilité de suivre notre... Suivre le Christ en nous, le Christ en Dieu, si vous voulez. Donc là, il y a quelque chose qui est intéressant dans ce parcours. Alors, c'est toujours la question, c'est de savoir où est-ce qu'on se met dans les textes, où est le lecteur dans ces textes. Là, volontiers, je me mettrais assez à la place de Marie. Bon, on peut se mettre à la place de Jésus, c'est légitime aussi. À la place des serviteurs, à la place des disciples. Mais la première lecture, je me mettrais bien à la place de Marie, finalement, qui est fiancée à Dieu, quoi. Comme le dit l'Évangile selon Luc, hein. On est fait pour se laisser féconder par Dieu, par sa parole, par son esprit, et que naisse quelque chose qui est de l'ordre du Christ. Bon, là, il y a cette... Je sais pas. Hein.
Oui, moi, je pense toujours, hein, quand je lis ce récit, c'est très dur de prêcher sur ce récit, parce qu'on sait qu'il a une dimension parabolique plus que biographique. On s'est demandé, d'ailleurs, si à l'origine, c'était pas une parabole qui avait été ensuite transformé en épisode de la vie de Jésus. C'est pas impossible, vous savez que ce phénomène existe. Peut-être que le récit de Jésus marchant sur l'eau chez Marc, c'est aussi de la même veine. Il peut arriver qu'une parabole racontée par Jésus finissent par être prises ou interprétées ou annoncées comme un événement de sa vie. Après tout, le bon samaritain, on peut dire aussi que c'est Jésus. Là, c'est l'inverse, hein, c'est une parabole, mais au fond, on peut tout à fait imaginer que,
oui, ça l'est aussi.
Que c'est aussi un épisode de l'enfant prodigue, le père qui pardonne, etc. Vous voyez, il y a toujours un va-et-vient entre les discours de Jésus et certains moments de sa vie. Alors ici, c'est vrai que cet épisode n'est pas raconté dans les évangiles synoptiques. Il n'apparaît que dans l'évangile de Jean, et on sait que l'évangile de Jean, comme je le disais, est très composé. Donc mettre ça de manière très liminale au seuil de la vie de Jésus, évidemment, ça n'est pas anodin, c'est un peu une ouverture d'opéra, hein. Et moi, je vois toujours le tableau de Véronèse, quoi, parce que c'est tellement...
Qui est dans l'annexe en face. Hein.
Oui, absolument. Il a été magnifiquement restauré il y a 10 ans. Et vous savez que c'est un peu un lieu commun de parler du rapport de Jésus à la vie sociale. Mais contrairement aux Esséniens, ou contrairement aux Baptistes, il avait une vie sociale. Et il faut imaginer un Jésus au sein d'une noce orientale. J'ai vécu des mariages au Liban, par exemple. C'est formidable. On finit par danser le dabké. C'est la danse que dansent les hommes ensemble. C'est fascinant. Alors, il faudrait qu'on fasse ça un jour. Ça changerait nos relations. Ce serait tout à fait étonnant, parce que effectivement le Christ qui danse, bon, c'est pas quelque chose qui est très développé dans la tradition théologique ni liturgique, mais c'est sûrement aussi une réalité. Et ici, quand on dit la noce, oui, c'est le banquet des noces. Alors c'est drôle, j'expliquais à mes élèves tout à l'heure, parce qu'on fait un roman de Zola, on est très loin de la Bible, et j'expliquais l'expression « faire la noce », les noceurs, etc. Alors là, évidemment, c'est tout à fait... C'est une expression beaucoup plus triviale. Mais ici, la noce, comme tu le disais, c'est effectivement quelque chose qui est une annonce un peu eschatologique. La fin des temps est vue comme une noce, est vue comme un banquet, le banquet des noces, le banquet des noces de l'agneau. On le dit quelquefois dans la liturgie, d'ailleurs, dans l'Apocalypse. Donc ici, l'idée de mettre la noce, non pas à la fin, mais au début, c'est assez intéressant. D'ailleurs, quand on lit l'évangile de Jean, quelquefois, on a l'impression qu'il commence par la fin. Si vous regardez l'épisode qui suit, c'est Jésus chassant les marchands du temple. C'est très étonnant. Alors que pour nous, dans notre idée, dans l'idée qu'on se fait tous de la vie de Jésus, les marchands chassés du temple, c'est ce qui va être la goutte d'eau, si j'ose dire, qui fait déborder le vase et qui conduit à la passion et à l'engrenage fatal. Parce que les autres racontent ça à la fin. Chez Jean, c'est au début, comme s'il voulait se débarrasser de toute une christologie qui était peut-être déjà connue de tous, et en disant, voilà, on se débarrasse de ça, et puis on passe ensuite à du lourd, quoi, à des choses, d'où le discours très long au cours de la scène, etc., la prière sacerdotale, les adieux de Jésus, qui sont très, très développés. Alors, ce banquet de noces, oui, qui est au tout début, c'est assez étonnant. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai vu assez peu commenté. Alors oui, donc il est invité. On sait par ailleurs dans d'autres passages de l'Évangile que ses fréquentations étaient critiquées. Hein. Alors c'est peut-être pas le cas ici, c'est peut-être une noce tout à fait BCBG, mais on sait que par ailleurs il fréquentait aussi des publicains, et il fréquentait les pêcheurs publics, comme on dit, il se fait inviter chez Zachée, donc il fréquente toutes les strates de la sociologie de l'époque, sans faire exception des personnes, et c'est cette liberté qui lui coûtera cher probablement aussi, hein, qui fait quand même jaser dans un monde qui reste marqué par des cloisonnements et par des tentatives dans des groupes religieux de remettre la Torah au centre. Et si la Torah est au centre, chez les pharisiens ça veut dire les séparés, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas vivre avec tout le monde, on ne peut pas aller chez des païens, on ne peut pas se faire inviter partout. Donc cette dimension de Jésus ayant une vie qui le met au contact des différentes couches sociales de son époque, je pense que, bon ici c'est pas le cœur, hein, mais c'est quand même un peu ça. C'est un Jésus un peu qui fait la fête, même si c'est très sobre. Hein.
Pas trop, non
Comment
Sobre, pas trop.
Non, oui, voilà. Bon, je ne sais pas si c'est lui qui a
la
vu,
description hein. Est sobre.
Il a, je ne sais pas si c'est servi à la fin, s'il a goûté.
Non, mais ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand même, c'est comme le cantique des cantiques. On utilise justement des noces vraiment au niveau charnel, sensuel, sexuel, pour parler de l'alliance entre Dieu et l'humanité, et Dieu et l'humain. C'est une belle image, en fait, puisque c'est une image d'alliance avec Dieu basée sur l'amour, sur la réciprocité, sur la conjugalité quasiment. Donc c'est une très belle image, une très belle type d'alliance qui est proposée par rapport à d'autres alliances que serait l'alliance entre rois ou alors le roi et son sujet. C'est très fréquent aussi comme type de relation entre Dieu et l'homme. Mais là, de le présenter comme une noce, c'est, je trouve, une très belle façon de parler de l'alliance entre Dieu et l'humain. C'est d'ailleurs presque une alliance, c'est presque une mésalliance. C'est-à-dire que voilà, Dieu se marie avec l'humanité, alors que bon, on n'est pas du même monde normalement. Donc c'est une nouvelle incroyable, effectivement. Donc ça dit quelque chose sur le type d'alliance, type de relation qu'on veut avoir avec Dieu. Mais ça dit aussi quelque chose de la relation conjugale et de sa sainteté, parce qu'on ne prend pas une image dégradante, ils auraient, pour parler de l'alliance entre Dieu et l'humain. Donc ça dit vraiment quelque chose sur la théologie, mais ça dit aussi quelque chose sur le statut de la vie conjugale, de la sexualité, comme étant digne de servir d'image à l'alliance entre Dieu et l'homme. Mais la noce aussi, c'est-à-dire que c'est pas simplement pour nous dire la joie d'être avec Dieu, etc. Ça sanctifie aussi nos repas de fête, nos noces. Alors bon, vous avez entendu là aussi, je dirais, 1000 prédications de Noël en disant mais quelle débauche de fête, de luxe, de machin, et on vous culpabilise de dire voilà, c'est tout ça, c'est dégueulasse, c'est loin du spirituel. Non, je veux dire, pas forcément. Simplement, il faut sanctifier ça par du spirituel, par de l'amour, par de la foi, par quelque chose. Mais la fête elle-même, les noces, le vin partagé, la joie des invités, ça fait partie aussi de choses belles, nobles, bien dignes de parler de la joie avec Dieu. Oui.
Je résiste pas au plaisir de raconter une histoire qui t'a arrivée. J'avais beaucoup de collègues dans ma vie musulmane. Et un jour, ils se sont mis entre eux à parler de la foi, comment ils étaient arrivés à ce qu'ils pensaient, à ce qu'ils croyaient. Bon, je ne disais rien. Et puis, il y a eu un moment où, quand même, on est rentré un petit peu plus dans le vif, ce qui m'a permis de dire tout d'un coup, vraiment sans l'avoir prémédité, oh, moi, si je suis chrétienne, c'est à cause du vin, vous savez. Évidemment, faisant référence, bien sûr, aux noces de Cana, et surtout au fait que je suis bordelaise. C'est-à-dire que je mélangeais tout parce que ça devenait une sorte de logique, en enfin, de logique, mais qui était aussi, enfin, je dois le dire, enfin, quelque chose de profond en moi, malgré tout, puisque c'était une référence à un passage de l'Évangile, bien sûr, et qui a une grande portée, bien sûr, mais pas seulement une portée sur le goût du vin, bien entendu. Mais ils sont restés médusés. Il n'y en a pas un qui a répondu. Ils n'ont rien trouvé à dire. Non. Ça ne rentrait pas dans leur logique à eux. C'était
évident. C'était clair. En fait,
c'est toute la question des métaphores dans la Bible, qui sont toujours... vous savez, c'est la fameuse expression qui vient du Concile de Chalcédoine. Il faut toujours distinguer sans séparer, unir sans confondre. C'est-à-dire qu'effectivement, le vin, c'est une image. Donc, on peut dire de façon très, très docte, le vin, bien sûr, c'est une image pour parler de la révélation, de la sagesse divine. L'Ancien Testament en parlait déjà. Mais au fond, le vin, c'est quand même le vin. Il n'a pas pris n'importe quelle image. Donc, forcément, on peut distinguer le comparant et le comparé, comme dirait un universitaire. Mais en même temps, forcément, il n'a pas pris le jus d'orange. Il a pris le vin parce que le vin, la boisson fermentée, qui grise, qui donne une ivresse, est une figuration humaine de la félicité. L'Ecclésiaste le dit. D'ailleurs, l'Ecclésiaste n'est pas seulement ce livre pessimiste et tragique qu'on cite toujours lorsqu'on est désabusé ou cynique pour dire qu'on l'était déjà il y a 2000 ans. Mais l'Ecclésiaste fait l'éloge sans cesse de bien manger, bien boire. Ça vient plusieurs fois. Boire et manger sont les plaisirs de la vie. Et c'est dit de manière qui n'est pas justement triviale et horizontale, mais au contraire, voilà. Et je crois que je suis assez d'accord avec vous. Il m'est arrivé de dire à peu près la même chose. Mais quand Jésus prend le vin comme signe de l'alliance par le sang, c'est quand même, c'est pas rien. Il donne une promotion au fruit de la vigne, là, qui est absolument inouïe. Et il faut avoir célébré la messe à 7h du matin à jeun pour savoir ce que c'est. Parce que forcément, il y a un petit effet d'ébriété, très légère. Et forcément. Et on n'y pense pas, ça, parce que maintenant, on célèbre plutôt le soir ou bien on célèbre en fin de matinée, mais on n'est pas à jeun. Mais quand on célèbre la messe comme elle a été célébrée pendant 2000 ans, c'est-à-dire très tôt le matin, ça m'arrive rarement, mais ça m'est arrivé, il y a cet effet. Et on comprend tout de suite la valeur du vin, et que l'ivresse est effectivement quelque chose qui, chez Noé, par exemple, dans son excès, peut être déshumanisante. Mais dans cette espèce de ligne de crête, il y a quelque chose qui est magnifique. Et donc là, on est très loin de la spéculation abstraite. Hein. Il y a quelque chose. Et c'est quand même ça qu'il a choisi, le pain et le vin. Il n'a pas pris l'eau et le pain. Épicure aurait pris de l'eau et du pain. Épicure disait « Donnez-moi un peu d'eau et de pain que je fasse bombance. » Paradoxalement, puisque Épicure n'est pas épicurien. Mais Jésus est beaucoup plus hédoniste.
Oui, mais je crois que voilà, Jean-Claude avait raison de dire pour faire du vin, il faut du raisin. C'est quand même une image, effectivement, comme tu le disais, très classique dans la Bible. La vigne est une image de l'humanité, de l'humain, du peuple de Dieu, si vous voulez. Parce qu'effectivement, une vigne ne produit du raisin que si elle est travaillée, c'est-à-dire que s'il y a une collaboration entre l'homme et Dieu, entre Dieu et l'homme, pour qu'il puisse y avoir du raisin. Ensuite, et d'ailleurs c'est une image dans Ésaïe 5 ou 6, je ne sais plus, Ésaïe 5, la parabole de la vigne qui est reprise par Jésus. Ensuite, l'idée de la vendange et du pressoir, c'est une image du jugement de Dieu, donc qui est un jugement qu'est l'amour, puisque ça garde le meilleur de chaque grappe. Donc aussi bien la vendange que le pressoir sont des images d'un jugement qui est bienveillant, qui garde, qui enlève les rafles et les pots et je ne sais pas quoi, et puis qui garde le jus, donc le meilleur de chacun. Et puis la fermentation, c'est une image de cette résurrection, justement, qu'évoque peut-être le troisième jour ici. ce quelque chose de magique qui fait que le vin, c'est le jus de raisin, donc c'est le meilleur de ce que nous sommes, mais en même temps avec quelque chose qui est de l'ordre de l'Esprit Saint, d'une fermentation, quelque chose de magique, qui fait que c'est tout autre chose. À la fois, c'est à la fois nous-mêmes, mais à la fois encore tout autre chose. Et donc la question, c'est que là, effectivement, le vin, ça a quelque chose qui parle de la vie éternelle, qui parle de la personne divinisée, la personne transformée par l'Esprit Saint, transformée par Dieu. Donc, c'est vrai que c'est des images qui sont de toute façon très fortes. Alors, comme tu le disais, on ne sait pas si c'est un récit biographique ou si c'est une mise en récit d'une prédication, d'une vérité théologique spirituelle. Mais qu'importe, puisque de toute façon, c'est un signe. Donc, même si c'est arrivé comme ça, ce n'est pas arrivé comme ça pour que ça arrive comme ça. C'est arrivé comme ça pour faire du sens. Et donc, c'est quelque chose qui est très biblique aussi. À ce moment-là, c'est simplement, c'est de la parole, c'est de la révélation faite histoire. C'est de la révélation en acte. C'est un geste signifiant de Dieu ou du Christ avec la colère. Oui.
Est-ce que le changement de l'eau, enfin, je me pose cette question, est-ce que ça annonce pas la résurrection ? Le changement de l'eau, enfin.
À mon avis, ça a à voir, oui.
Oui. Ouais.
Le troisième jour, ouais.
Mais moi je crois, parce que c'est ce que disait Jérôme, le saint sans doute et toi-même aussi.
Ah, le saint Jérôme.
Oui. C'est qu'effectivement le vin, c'est le vin du banquet messianique, c'est le vin de la vie éternelle aussi, donc c'est le vin de la vie ressuscitée. Ce n'est pas simplement la vie dans l'autre monde, la vie ressuscitée maintenant, oui.
Oui, est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi que cette eau des rites juifs de purification qui est transformée par Jésus en vin, je trouve que ça ressemble un peu au baptême de Jésus raconté par le même Jean,
oui.
Qu'on verra dimanche prochain justement, Jean-Baptiste baptise dans l'eau, et ensuite Jésus baptisera lui dans l'Esprit, dans l'Esprit Saint. Donc est-ce que...
Il y a une transformation
pareille de l'eau des rites juifs de purification.
Bah oui, tout à fait.
En baptême dans l'Esprit Saint.
Bah oui, moi
ça,
je pense.
Ça, on peut mettre aussi en parallèle.
Moi je pense aussi, tout à fait, oui. Parce que l'eau de purification, effectivement, c'est aussi une image de naître d'eau. C'est la purification, c'est l'étape de Jean-Baptiste, où on est plongé dans la grâce de Dieu pour un changement de mentalité, pour vraiment être dans un changement de mentalité par la connaissance, la plongée dans la grâce de Dieu, du pardon des fautes, etc. Mais effectivement, du coup, ça ouvre pas simplement un salut comme ça, externe, pour arriver, se prolonger un salut interne qui est de l'ordre de l'Esprit Saint, du baptême d'Esprit Saint. À mon avis, ça a tout à voir avec ça, évidemment. Oui.
C'est intéressant ce que tu disais aussi sur l'idée de fermentation, c'est-à-dire la transformation un peu magique, effectivement,
oui.
Parce qu'on ne sait pas, voilà, et qui est le plus qui vient de l'extérieur, qui vient de l'esprit, justement, qui ne repose pas sur nos... Parce que, alors saint Paul, vous savez, pour parler de la résurrection, lui prend l'image du grain qui est semé, et il dit il n'y a aucune analogie possible, apparemment, entre le grain et puis la plante, ensuite. Or, il s'agit bien de... Et c'est drôle parce qu'au fond, c'est de la biochimie, tout ça. Il y a une biochimie théologique. Je ne sais pas si ça a été beaucoup étudié.
Il y a le problème des crus. Les crus dans les vins.
Oui. Qui tient au degré de...
Perfection, mais avec une
originalité. Oui. Et ça tient donc à une terre, au soleil, à une exposition, au cépage.
Et une façon de cultiver.
Ouais. Oui. Mais c'est intéressant, je pense que ça mériterait presque qu'un théologien traite cette question. C'est très beau. Hein. Alors.
Est-ce qu'on a d'autres choses là-dessus ? On peut rentrer dans le détail de ce texte, évidemment, mais... Parce que si vous voulez, cet itinéraire, de toute façon, est intéressant. Hein. Marie qui cherche à réveiller Jésus en lui-même, en elle, enfin, je veux dire, on peut dire que c'est comme réveiller sa foi à l'intérieur de nous-mêmes, si vous voulez, de dire, voilà, il n'y a plus de vin. Donc notez ce manque de joie, de source de joie dans notre existence, ce manque de vie éternelle, ce manque de vie supérieure. VDQS, hein, vie de qualité supérieure. Ou bien... Enfin bon, voilà, ensuite l'idée d'aller voir Jésus, c'est une bonne idée, une bonne démarche. Si vous voulez, on pourrait avoir 1000 démarches pour avoir donné de la plénitude un peu à sa vie, de l'ébullition, du pétillement. Jésus qui dit, alors là c'est traduit d'une manière un peu simple, « Que me veux-tu, femme ?» C'est quand même vraiment aplati, c'est...
C'est pire en grec.
Qu'y a-t-il entre toi et moi, oui. femme ? C'est beaucoup
quoi
plus fort.
Quoi de toi à moi ?
Quoi de toi à moi, femme ? C'est quand même une excellente question. Qu'est-ce qu'il y a entre le Christ et nous, si vous voulez ? C'est là que ça paraît bizarre pour Jésus qui parle à Marie. Mais si Marie est une figure du disciple, ça se comprend un peu mieux, si vous voulez. À ce moment-là, on peut dire, oui, c'est une excellente question. Qu'y a-t-il entre le Christ et moi, et nous ? Et chercher dans ce rapport... Voilà, donc je crois que mot à mot, on peut méditer sur cela, entrer dans cette démarche.
Ce qui est intéressant, c'est qu'elle insiste, et c'est pas la seule fois dans l'évangile de Jean où vous savez qu'il y a un autre miracle à Cana qui est la guérison du fils du fonctionnaire royal. C'est moins connu, c'est un peu après, et là aussi, il dit non d'abord, et puis ensuite, il. Alors, je me suis...
Elle n'insiste pas, mais simplement...
Elle... Ouais, oui, disons qu'elle... Il dit, mon heure n'est pas venue, mais elle va en douce dire, faites quand même... Elle a une attitude de disciple, justement. Ce qu'elle sera sur la croix, où elle sera d'ailleurs intégrée au groupe des disciples, en devenant la mère de...
Elle est intégrée là, à la fin, hein, elle est avec les disciples.
Mais de fait, ensuite, elle restera à Capharnaüm, elle n'ira pas. Elle restera avec les familiers, avec les frères et les sœurs, mais... Elle devient pleinement disciple plus tard. Ouais. Mais pour la guérison, donc l'autre miracle de Cana, la guérison du fils du fonctionnaire royal, là, je ne sais pas comment on peut traduire ça, il y a aussi, on voit un Jésus qui se fait...
Qui résiste.
Qui résiste, oui. Ouais.
Mais ça, on peut le sentir en nous-mêmes. C'est-à-dire, voilà, une foi qui produit pas assez de vie, des faits peut-être dans notre existence, donc il y a cette démarche. En même temps, c'est sympa parce qu'elle lui dit pas ce qu'il doit faire lui, quoi. Donc c'est un bon exemple de prière. On dit pas à Dieu, voilà, tu fais-moi ça. Non, il y a marqué, voilà le problème finalement. Et puis ensuite, je sais pas ce qu'il va vous demander de faire. On verra bien. Et ça, je trouve, c'est un très bon exemple de prière à Dieu, plutôt que de dire à Dieu ce qu'il devrait faire. De le transformer en Père Noël auquel on présente notre liste de jouets, de dire voilà finalement de présenter les choses factuellement et au cœur même du problème.
Quoi qu'il vous dise, faites-le.
Oui, mais ça c'est justement l'inverse de la prière qui dit à Dieu ce qu'il devrait faire. C'est une sorte de disponibilité en disant ensuite je vais me laisser inspirer parce que Dieu va me mettre dans le cœur. Mais je vais mettre aussi mes moyens, mes forces, mon énergie dans cet exaucement de la prière qui va être des idées nouvelles, peut-être des pistes nouvelles, des choses nouvelles à faire. Donc je trouve que c'est très intéressant au point de vue de la prière. Mais c'est tous ces textes, si vous voulez, que si on essaye d'en tirer la leçon comme ça, c'est un petit peu du catéchisme de base. Mais quand c'est médité par soi-même, ça peut venir nous rejoindre dans, justement, notre propre espérance. Qu'est-ce qui nous manque pour être heureux ? Voilà, quel vin nous manque pour... Et ça, c'est à chacun de méditer ça et de le présenter à Dieu dans la prière et puis de voir l'effet peut-être de cette prière. Donc, ce n'est pas des textes qu'on peut réduire, mais comme aucune parabole ni aucun récit de Jésus. C'est des trucs, c'est des récits de vie, en fait. Et donc... Il faut venir les habiter avec sa propre soif, finalement, et sa propre obéissance. Mais personne ne peut le faire à la place d'un autre, je pense. C'est pour ça que la fréquentation de l'Écriture est quelque chose qui est peut-être de l'ordre de la religion, c'est-à-dire de l'exercice besogneux, mais on peut attendre infiniment plus que ça, finalement. Attendre infiniment plus que simplement cet exercice. On ne sait pas trop ce que ça va apporter, mais on attend le quelque chose de magique que Dieu seul pourra apporter.
Dans la liturgie, il y a un geste que j'aime beaucoup, c'est au moment de l'offertoire. Je ne sais pas si vous faites ça, on met un peu d'eau dans le vin. Autrefois, on ne le voyait pas parce que c'était caché. Maintenant, on le fait souvent à l'autel. Et justement, alors est-ce que c'est de la religion ou de la spiritualité? J'espère quand même que quand on le fait, il y a un sens. C'est un peu l'eau qui est noyée dans le vin, l'eau qui devient vin en fait. Et on dit, alors comme c'est à voix basse, je le dis quelquefois en latin, mais comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris pour nous notre humanité. Donc c'est sublime entre l'admirable échange, comme on dit dans la préface de Noël, entre l'humain et le divin. Quoi. Mais du coup, l'humain est perdu dans le divin et dans du vin.
Ça, c'est un peu plus ennuyeux parce que.
Oui, mais non, mais il est absorbé, c'est ça. Il est exaucé. Mais non, mais il est, oui, oui. Il est
divinisé.
Assumé. Il n'est pas.
Parce que ça, ce serait un peu.
Oui, non, mais je veux dire, il est.
Bouddhiste.
Il est. Il est oui, fermenté. Non, mais c'est pas fusionnel.
Il est fermenté.
Oui, il est fermenté. Voilà.
L'eau est transformée en vin, mais justement, comme vous disiez, c'est pas. Ce vin, on est transformé en vin, mais c'est notre vin, c'est notre cépage. C'est pas interchangeable. C'est pas le. On n'est pas transformé en Jésus-Christ. On est. C'est encore nous, mais qui sommes transformés par le divin. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas.
C'est pas une perte de soi.
C'est pas une perte de soi dans l'océan de Dieu. C'est ça qui pourrait. C'est comme quand on nous dit vous êtes le sel de la terre. C'est effectivement qu'on se dissolve dans le monde. Oui et non. On n'a pas à se.
Tout à fait. Dissoudre. C'est une communion. C'est pas une fusion. Oui. Comme le mariage. C'est une communion.
Exactement. Pas une fusion. Sinon, c'est. Enfin, je sais pas. Après, chacun son. Enfin bon, donc on vous laisse ça à méditer. Peut-être qu'on va lire le texte suivant, non? Le pique-nique sur l'herbe.
Alors, on a pris Marc parce qu'il y a deux récits. Est-ce que chez Matthieu et Luc, il y a deux récits aussi? Je ne crois pas.
Hein. Si, il y en a. Je pense que peut-être que Jean, il n'y en a qu'un.
Chez Jean,
il y en a beaucoup. Il y en a deux. Et puis là, ce qui est intéressant dans Marc, c'est qu'il y a une petite relecture à la fin où lui-même en fait une relecture. Alors ça, c'est amusant parce que dans les facultés de théologie, on nous dit, attention, c'est jamais une allégorie, etc. En fait, chaque fois que Jésus interprète soit un de ses gestes, soit une de ses paraboles, il en fait toujours une lecture allégorique. Donc, vous savez...
Mais c'est très étrange ce paragraphe. C'est le dernier paragraphe. Là,
du coup, ça invite aussi, voilà, ça invite et ça légitime de faire de ces textes, comme tu le disais, Jérôme, de les lire comme des paraboles. C'est pas qu'il n'y ait pas un fond historique derrière. On peut discuter du fond historique, est-ce qu'il a eu lieu, est-ce qu'il n'a pas eu lieu. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, s'il a eu lieu, le fond historique, c'est que c'est là comme un signe. Donc c'est fait pour que ce soit interprété comme une parabole. S'il n'y a pas de fond historique, c'est que ça a été écrit comme une mise en récit d'une vérité, donc c'est à lire comme une parabole. Donc de toute façon... Ces récits, ces paraboles sont à lire un peu de la même façon, tout comme des paraboles, tout comme des signes, tout comme des... à décrypter comme parlant de nous-mêmes et du salut qui nous est proposé. Alors, le pique-nique sur l'herbe. Il y a un lecteur, une lectrice. Ah, merci beaucoup.
Un pique-nique sur l'herbe, Marc 6. Les apôtres se réunissent auprès de Jésus et ils lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, vous autres, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup de monde qui venait et repartait et eux n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent en barque vers un lieu désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent à cet endroit et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut pris de pitié pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Puis, comme il était déjà tard, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui dire « L'endroit est désert et il est déjà tard. Envoie-les qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Mais il leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent « Nous faut-il aller acheter pour 200 pièces d'argent de pain et leur donner à manger ?» Il leur dit « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ayant vérifié, ils disent « 5 et 2 poissons. » Et il leur commanda d'installer tout le monde par groupe sur l'herbe verte. Ils s'étendirent par rangées de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant son regard vers le ciel, il prononça la bénédiction, rompit les pains, et il les donnait aux disciples pour qu'ils les offrent aux gens. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Ils mangèrent tous et furent rassasiés. Et l'on emporta les morceaux qui remplissaient 12 paniers, et aussi ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes.
Donc là, au point de vue historique, si vous voulez, au point de vue scientifique, si vraiment c'était une multiplication des pains comme ça, c'est pas possible, parce que il faudrait une énergie colossale pour arriver à fabriquer autant de matière à partir de l'air du temps. Si vous voulez, c'est quasiment, enfin, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens au niveau scientifique. Alors au niveau éthique, ça peut avoir du sens, effectivement, on se dit, mais il n'y a pas assez, mais c'est parce que tout le monde cachait dans le fond de sa poche son petit sandwich en disant, mais si je le sors, on va me sauter dessus. Et donc quand Jésus dit, ben en fait, regardez ce que vous avez, chacun, il y en a un qui sort un truc, eux ils disent, ben, j'ai 5 pains et 2 poissons, mais si tout le monde sort ses 5 pains et ses 2 poissons, il y en a pour tout le monde. Donc, du coup, il peut y avoir eu, comme ça, une expérience éthique, où, dans d'autres récits, c'est... Un garçon qui dit ben, y a pas grand chose mais moi j'ai quand même quelques petits bouts de pain dans mon sac et c'est ce petit garçon qui va faire tache d'huile, c'est le geste de ce petit garçon qui va faire tache d'huile. Alors ça fait tache d'huile pourquoi? À ce moment là on pourrait le dire, ça pourrait être ça le fond historique si vous voulez, pourquoi pas, mais ensuite il le transforme en un récit qui fait sens pour nous. Mais comment ça marche, le petit garçon, si il a, ou alors là, ils sortent leur un peu de pain qu'ils avaient et de poisson qu'ils avaient dans leur sac, ils osent le montrer et pour dire, ben en fait, j'ose l'exposer pour les autres. Et donc, je m'expose à devoir en donner aux autres, à en avoir moins pour moi, quoi. Du coup, ce qui est communicatif, c'est cet exemple de sincérité, de dons, voilà. Et finalement, c'est un pain, effectivement, qui peut nourrir les autres et effectivement qui se multiplie quand on le partage. Parce que le pain matériel, si j'ai un sandwich et que je le partage avec quelqu'un, il n'y a pas deux sandwichs, il y a deux demi-sandwichs. Mais par contre, l'amour, la sincérité, la joie, l'évangile... Si je l'offre à un autre, chacun part avec la totalité. Donc, ce genre de choses spirituelles, ça se multiplie quand on le donne. Alors que les choses matérielles, elles se divisent quand on les donne. Donc, effectivement, un exemple, par exemple, d'éthique, de sincérité et de don de soi, de solidarité avec les autres, c'est du spirituel qui se multiplie quand on l'offre. Donc cette multiplication des pains, effectivement, il y a là quelque chose qui est nourrissant pour l'autre et quelque chose qui se multiplie quand on le donne. Enfin, même quand on le donne, on a plus que ça fait plus que multiplier par deux. Par exemple, si je connais une bonne blague et que je la raconte à quelqu'un, on repart tous les deux avec la bonne blague, donc c'est multiplié par deux. Mais sauf qu'en plus, moi, de la raconter, ça me fait marrer encore plus que de simplement le savoir à l'intérieur. Donc, c'est multiplié par 3, en fait.
Ouais, ouais.
Donc c'est pareil pour le, vous voyez, pour l'évangile, pour le spirituel, pour la joie, pour le, la sincérité, pour le don de soi, pour cette collégialité, cette communion finalement qui est ici. C'est quelque chose qui est profondément multiplié. Non, t'allais dire ?
Si, si, non, quand je lis l'évangile, surtout l'évangile de Marc, je pense toujours, vous savez, à cette esthétique de la bande dessinée qu'on appelle l'esthétique de la ligne claire chez Hergé, Tintin, il y a une expo là actuellement. L'esthétique de la ligne claire, c'est arriver à raconter une histoire avec des choses très épurées, très minimalistes. Et c'est assez minimaliste au fond. Mais quand on regarde le récit, on s'imagine que malgré la grande économie de moyens, ça devait quand même être un sacré bazar, cette histoire. Là, c'est Pasolini plutôt qui me vient. Vous savez, ces scènes extraordinaires où on voit les foules avec des gens très, très bigarrés. Alors, on se dit quelquefois, c'était peut-être pas des foules, c'était peut-être quelques centaines de personnes. Mais ici, c'est quelques milliers de personnes. On ne sait pas d'ailleurs comment se faisait la prédication de Jésus, comment... on nous raconte toujours que, par exemple, lorsque Saint Bernard a prêché la croisade, on dit que tous les 10 rangs, on répétait, parce qu'il n'y avait pas de micro. Hein, donc il fallait bien, vous savez, quand Saint Bernard dit « Dieu le veut », etc. Donc c'est répété, et puis ça devient une espèce, voilà. Et on dit aussi que pour les sermons dans les cathédrales, les gens répétaient les bons mots, bon... Et c'est assez concret parce qu'il parle quand même à 5000 personnes. Et en fait, donc c'est une foule un peu pasolinienne, un peu bigarrée. Ça doit être un mélange des genres absolument incroyable. Et en plus, bon, c'est rocambolesque parce que Jésus essaie quand même de partir en bateau, puis ils sont rattrapés. Il y a un côté presque romanesque. Et à un moment, il y a une mise en ordre qui se fait. Il leur commanda d'installer tout le monde par groupe. Ils s'étendirent par rangées de 100 et de 50. Alors là, moi, je suis époustouflé, parce que ça veut dire qu'avec cette foule, cette tourbe, comme on disait, la tourba, il arrive à faire quelque chose d'ordonné, qui est presque déjà une ecclésia, qui est presque une assemblée. Enfin, je ne sais pas, je le réfléchis un peu à voix haute, parce que là, ça vient de me sauter aux yeux tout à l'heure en relisant. Et il me semblait pas que dans les autres récits, on parlait d'un tel... C'est-à-dire qu'avec un élément disparate, hétérogène et désordonné, il fait quelque chose un peu comme le geste créateur, au fond, de Dieu, qui sépare, qui ordonne, qui classe, qui hiérarchise. Et sa parole, c'est une parole d'autorité. Et ensuite, on dit qu'il lève son regard vers le ciel, qu'il prononce la bénédiction. Spontanément, on se dirait, tiens, ça c'est plutôt chez Saint Jean, parce que Saint Jean est plus théologique, alors que Marc est souvent à fleur de récit. Et là, c'est eucharistique. D'ailleurs, le terme grec, c'est eucharistein, c'est la bénédiction.
Rendre grâce, oui.
Donc, on ne peut pas s'empêcher de penser que les gens qui ont raconté cette histoire, parce que ça, au fond, c'est quoi ? C'est écrit 30 ans après les événements. Donc c'est comme si nous, on écrivait là quelque chose qui s'est passé dans les années 70 ou 80. Encore, c'est même un peu plus tardif, probablement. Et donc, des gens qui se fondent uniquement sur la prédication orale. Mais ces gens qui sont des chrétiens, qui vont donc conduire à la rédaction de l'évangile de Marc, ils célèbrent la fraction du pain. Parce qu'ils sont déjà chrétiens, donc on n'y pense jamais, mais ces gens-là vivaient quotidiennement ou tous les dimanches déjà de la fraction du pain. Donc forcément, à mon avis, il y a quelque chose ici qui est eucharistique. C'est l'idée vraiment, le pain eucharistique, c'est un pain qui est à la fois un, c'est Jésus, et puis qui se démultiplie, qui fait un avec chacun. Et donc je pense que, moi je ne sais pas, je pense qu'il y a une expérience éthique derrière, celle que tu évoquais, à savoir que la médiation de Jésus, la présence de Jésus, suffit parce qu'il y a eu un don initial, parce que quelqu'un a quand même dû cracher au bassinet, quelqu'un a dû donner, quelqu'un a dû se délester de ce qu'il avait. Il y a eu un don initial, il y a la présence de Jésus, et là le miracle opère, c'est-à-dire que les gens sortent de leur égoïsme. Je pense qu'il y a cette expérience éthique au départ. Mais là, c'est quand même relu, à mon avis, de façon très... très eucharistique.
Mais c'est relu, effectivement, c'est le Christ, les pains et les poissons, quand même.
Oui,
c'est ça.
Ictus.
Oui, oui.
Le poisson, j'ai remarqué, c'est comme la nourriture dans l'évangile, les poissons reviennent régulièrement. Même quand il est ressuscité, il dit donnez-moi à
Oui.
Dans Jean, dans Jean, là, ils font un petit barbecue de poisson au bord du rivage. Oui.
Est-ce qu'il y a une signification spirituelle des poissons, ou est-ce que c'est parce qu'il était dans une région
C'est-à-dire que les poissons, ils étaient réputés. C'est quand même des animaux un peu spéciaux, parce qu'en fait, par exemple, au déluge, dans ce récit, bon, bien sûr, mythique. Le déluge, ça élimine tous les animaux vivants, y compris les humains, sauf huit justes. Hein. Mais les poissons, eux, ils ont pas eu de problème, quoi, en fait. Et puis, si vous voulez, le poisson, c'est une figure finalement du sauvé et du sauveur. Hein. Du sauvé parce que, donc, il nage dans la bénédiction de Dieu. En plus, il paraît que les poissons, ça grandit tout au long de sa vie. En tout cas, bon, il y a des vieilles carpes qui sont énormes. En plus, il paraît que ça n'a pas de paupières, que ça a toujours les yeux ouverts, comme le voyant. Hein. Je ne sais pas si c'est vrai. Il faut demander aux spécialistes des poissons. Nous en avons un, vous voyez. Et donc, c'est une figure quand même. Et puis, ça dort peut-être pas. Enfin, ça a toujours l'œil ouvert, en tout cas. Mais ça a l'œil ouvert, en tout cas. Ça garde l'œil ouvert.
Oui.
Ça dort les yeux ouverts. Et donc, si vous voulez, c'est une figure du juste, quand même. Voilà. Donc, alors, c'est une figure du sauveur aussi, parce que il y avait les dauphins, bon, c'est assez récent qu'on sache que ce n'est pas des poissons, mais c'est une sorte de poisson, en fait, qui sauvait les gens. C'est-à-dire que les naufragés, les dauphins allaient les sortir de l'eau, des fois, paraît-il. Et donc, c'est à la fois une figure du sauvé et du sauveur. Donc, oui, le poisson est un animal qui est réputé qui a une belle symbolique, voilà. Alors le pain, c'est un peu comme le vin aussi, c'est exactement la même symbolique. Le blé, ça représente une collaboration du travail de l'homme et de Dieu. La moisson, le vannage du blé, la meule, ça représente ce jugement qu'est l'amour de Dieu, jugement de bienveillance qui garde le meilleur, qui le prépare. Et puis la fermentation, le levain, dont il va être question après, ça représente ce quelque chose de spécial qui transforme de la farine toute sèche en un délicieux pain. Alors, effectivement, il y a une deuxième multiplication des pains derrière. Il y a les pharisiens qui arrivent, et puis au verset 14, si vous voulez, on a une relecture par Jésus de ces multiplications des pains, qui n'est pas inintéressante quand même, parce que ça peut donner quand même une piste d'interprétation. Qui est-ce qui pourrait nous lire à partir du verset 14 dans le Marc 8, là, pour avoir un peu la fin, peut-être, hein?
Donc, on peut juste dire que la deuxième ressemble beaucoup à la première, si ce n'est qu'il y a...
pas le même nombre.
Il n'y a pas le même nombre, voilà. Il y a plus de pain et il y a moins de gens à rassasier. Donc, il y a 7 pains et ils sont 4000, voilà. Voilà.
Donc 14, qui est-ce qui peut nous lire le dernier paragraphe? Ah, merci beaucoup, oui.
Les disciples avaient oublié de prendre des pains et n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur faisait cette recommandation: attention, prenez garde au levain des pharisiens et à celui d'Hérode. Ils se mirent à discuter entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Jésus s'en aperçoit et leur dit: pourquoi discutez-vous parce que vous n'avez pas de pain? Vous ne saisissez pas encore et vous ne comprenez pas. Avez-vous le cœur endurci? Vous avez des yeux, ne voyez-vous pas? Vous avez des oreilles, n'entendez-vous pas? Ne vous rappelez-vous pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux vous avez emportés? Ils disent 12. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés? Ils disent 7. Et il leur disait: ne comprenez-vous pas encore?
Et manifestement, tout est voilà, ils ont compris, puisque c'est voilà, la discussion s'arrête.
Mais nous, qu'est-ce qu'on...
Alors nous, si vous voulez, voilà, donc le secret, c'est un peu dans les combien, hein, des combien, combien le Christ apporte finalement. Et combien il y a de personnes et combien à la fin il reste de paniers. On emporte ce qu'on emporte, voilà. Donc les chiffres qui sont là sont des chiffres bien sûr symboliques, qu'on connaît très bien, qui sont très connus. Hein. Il y a d'abord les 5. 5, c'est la loi. C'est le Pentateuque, parce que si vous voulez, le 5, c'est l'éthique. C'est comme les 5 doigts de la main, c'est le comment faire. C'est l'orthopraxie. C'est la loi, le commandement. Et effectivement, il y a 5000 hommes. Rangés en rangée de 50 et de 100, ben c'est le peuple de la loi. Rangée le 10, c'est les 10 commandements, le décalogue, le 5, c'est le Pentateuque, c'est la loi, le 10, c'est tout ça, c'est le peuple de la loi. Et donc, c'est normal. Et qu'est-ce qu'on remporte à la fin? C'est 12, ben ça on le sait, le 12, c'est le peuple de l'Alliance, le peuple de la loi, c'est les 10 12 tribus, c'est les 12 apôtres. J'allais dire, c'est de l'ordre de, quand même, du peuple béni, quoi, c'est ça, hein, c'est du peuple, peuple de la loi, finalement, qui est comme les 12 apôtres, les 12 tribus. La deuxième fois, il donne du 7. Le 7, c'est la création bénie, c'est le 7 du septième jour, en fait. C'est donc une plénitude de la création qui n'est pas simplement matérielle, avec le 6, mais on entre dans le 7, c'est la création bénie. C'est pas simplement la bénédiction, c'est la création bénie en plénitude. Pour 4000 hommes, bizarrement, dans ce sens-là, 4000, c'est plus que 5000, parce que 5000, c'est le peuple de la loi, et 4000, c'est l'universel. Parce que le 4, c'est les 4 points cardinaux, c'est le monde 4. Donc 4000, c'est plus que 5000, si vous voulez, symboliquement. C'est l'humanité entière, et ce qu'il en ressort, c'est du 7. C'est de la bénédiction, en fait. C'est plus simplement un peuple d'apôtres, des tribus, c'est plus simplement une troupe. C'est un peuple bénédiction. Voilà. C'est la promesse donnée à Abraham, hein, qu'il sera bénédiction, qu'il est béni et qu'il sera bénédiction. C'est l'accomplissement de la promesse faite à Abraham qui se réalise en eux, finalement. Mais comme on le disait pour les jars, vous voyez, la religion n'est pas niée. Il faut la première multiplication pour avoir la deuxième. Jésus-Christ, il a quand même fait la première multiplication des pains. Ils n'ont pas dit, la deuxième ne vient pas effacer. Et donc, il faut effectivement peut-être passer d'abord par la loi. Alors bon, c'est vrai que c'est... Il faut passer par le 5000, il faut passer par les 12 apôtres, il faut passer par ça. Alors bon, c'est... C'est pas le tout du tout. Il faut aller plus loin pour aller dans cette bénédiction reçue, pour devenir soi-même bénédiction. Et donc, c'est là que le donnez-leur vous-même à manger, ça passera pas simplement. Ça pourra être dans une première étape donner de la loi, donner de la théologie, donner des conseils éthiques, pratiques, de vie, d'ascèse peut-être, je sais pas quoi. Mais ensuite, il faudra passer à cette multiplication de la bénédiction. Voilà. Alors, méfiez-vous du levain des pharisiens et d'Hérode, c'est que finalement là, il y a peut-être deux façons d'être trop dans le monde. Parce que les pharisiens, ils étaient beaucoup dans l'orthopraxie, ils s'arrêtaient vraiment peut-être à la religion religieuse, ils s'arrêtaient, enfin en tout cas c'est ce qu'on leur met sur le dos, si vous voulez, c'est pas juste, parce qu'ils étaient bien mieux que ça. Mais j'allais dire le pharisien intégriste était peut-être comme ça, méritait peut-être cette critique, si je puis dire. Bon, ensuite, c'est pas les pharisiens historiques qu'on fustige ici, l'évangile il est écrit pour notre pharisianisme à nous, si vous voulez, hein. Et notre hérodisme. Mais le pharisien, c'est celui qui serait trop dans l'orthopraxie, trop dans il faut faire ceci, il faut faire cela, trop dans la morale, trop dans la religion, peut-être, sans passer à la suite. Et le Hérode, ben, c'est celui qui est peut-être trop dans le politique, trop dans la gestion de la vie courante, trop dans la royauté, dans le pouvoir, dans je ne sais pas quoi. Donc, c'est pas... C'est pas refuser la religion, puisque finalement, la première multiplication des pains, elle était plutôt pharisienne, la première multiplication des pains de Jésus. Donc il n'est pas contre, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. ni Hérode, ben Hérode, voilà, quand il s'occupe de savoir concrètement, les gens, si on les nourrit pas, ils vont tomber dans les pommes, c'est quand même très concret. C'est du domaine d'Hérode, et on ne peut pas faire autrement, si vous voulez, que de s'occuper quand même de l'intendance. Hein. Dans l'Église aussi, on vous dit, ben, des fois, il faut peut-être payer les factures, donc si vous pouviez y penser, ce serait pas mal. Donc, si vous voulez, c'est vrai que c'est en la honte. Hein. En même temps... En même temps, la vie est comme ça, si vous voulez. Donc voilà, c'est pas de zigouiller les pharisiens et Hérode, c'est de s'en méfier, quoi. De pas s'arrêter, voilà, de passer l'état de supérieur. Voilà. Je trouve que bon, c'est intéressant. Je trouve cette relecture de Jésus, en même temps, ça disqualifie pas une lecture historique de ces récits. Bon, faut aller un peu plus loin que le grand prodige que fait Jésus, ce qui n'a pas de sens. Transformer physiquement 5 baguettes de 250 grammes, c'est-à-dire 1 kg 250 grammes de pain en 1 tonne 5 hein, de pain pour nourrir tout le monde, ça n'a pas de sens hein, scientifiquement. Mais au niveau, voilà, on peut réfléchir à ce que ça peut vouloir dire, et puis au niveau symbolique, à mon avis, il y a énormément à retirer de ces textes comme nourriture pour notre... notre cœur endurci, nos yeux aveuglés, nos oreilles bouchées, notre mémoire défaillante et notre intelligence
limitée. En tout cas, je reste ébahi devant ta science numérologique sur les... Parce que j'étais loin de... Moi, j'étais un peu comme les disciples, là. Mais c'est très intéressant, parce que du coup...
Mais ça, c'est des chiffres qu'on connaît un peu.
Bien sûr, oui, ouais. Non, mais c'est le symbolisme.
Ouais. Il y a les 5 pains, puis il y a les 2 poissons. Les 2 poissons, c'est fait référence, c'est la parole.
Voilà, c'est la parole, oui. Le 2, c'est la parole, plutôt, oui. Donc, effectivement, là, c'est... Alors c'est la parole vive. Alors effectivement, ça aussi, pour nous, on dit l'Ancien et le Nouveau Testament, les Juifs, eux, disent la loi écrite et la loi orale. C'est-à-dire que voilà, ils savent qu'il y a la Torah écrite, pour eux, c'est le Pentateuch, en fait, c'est l'écriture. Mais ils disent il y a la loi orale. Et c'est ce qui leur permet, par exemple, quand il y a marqué « si votre fils est désobéissant, ben, c'est pas facile, vous allez le prendre, le porter au Sanhédrin, et puis joyeusement, tout le monde ensemble, on va le lapider à la porte de la ville. » C'est dans la Torah. Donc ceux qui veulent expliquer l'écriture à la lettre, ben, faut aller faire ça. Je veux dire, après, c'est vrai que ça fera de la place dans les écoles. Hein. Surtout peut-être l'école publique. Hein.
Alors, on découvre après ce texte, et puis...
Mais il y a la loi orale, donc, où effectivement, ils disent « mais non, la loi orale, elle dit qu'il faut pas faire ça. » Et donc, la loi orale, c'est dans l'interprétation, dans le dialogue entre les gens, dans la prière, que Dieu éclaire. Voilà, déjà, vous voyez, quand il dit le 5, c'est la Torah, mais avec les 2 poissons, c'est pas simplement la Torah, c'est aussi la Torah orale, c'est-à-dire l'interprétation, la discussion, le débat, l'illumination par l'esprit. C'est ça, quand même.
Mais tu disais que Dieu est clair, et puis là tu viens de dire illumination, et il me semble que le texte, la péricope qui suit immédiatement celle-là, c'est la guérison d'un aveugle né. Et je pense que effectivement, comme il y a une cécité des apôtres, tout au long de l'évangile d'ailleurs, hein, homme de peu de foi, comme vous êtes lent à comprendre, que votre cœur est lent à comprendre, etc. Et il me semble que c'est la guérison d'un aveugle.
Absolument.
Voilà. Donc, et un aveugle en plusieurs étapes, en plus, donc au début, il discerne des formes. Donc, vous voyez, il y a aussi une lecture, une lecture aussi parabolique, même si je ne doute pas, bien sûr, que
qu'il y a eu un vrai Jésus.
Oui, qu'il y a un Jésus qui guérit, ça, c'est une évidence. Oui. Mais ça n'est pas pour rien que dans la composition de l'évangile, on ait la guérison d'un aveugle immédiatement après cette scène difficile à interpréter. Et il faudra les événements de la passion et de la croix pour que le regard des disciples se désencombre et se lave et s'illumine.
Alors on est chaleureusement invité à Saint-Eustache le mercredi 25 à 20h en fait pour une célébration œcuménique. qui est toujours un moment, vraiment un moment de, voilà, de communion tout à fait touchant, je trouve, surtout dans cette magnifique nef de Saint-Eustache le soir, avec les voûtes illuminées, et puis d'être comme ça dans le cœur, avec cette célébration mondiale de réconciliation. C'est un bon moment de l'année, je trouve, et donc on peut venir pour ce temps.
Et puis c'est l'année de célébration de la réforme, et comme l'a dit le père Nicholson dimanche, jour de l'épiphanie, la réforme, c'est, ça touche l'Église universelle, hein, ça touche, ça n'est pas seul, voilà, c'est, ça appartient au bien commun des chrétiens, l'esprit de réforme.
Merci, donc, et puis donc, au 25 si vous pouvez, et sinon bah, la prochaine fois c'est à Saint-Eustache, donc pour les groupes bibliques comme ça, et ça, on se retrouve c'est marqué dans la petite
on se retrouve le 22 février. Voilà. Et bonne année à tous, hein.
Et bonne année
deux, à bien sûr, au seuil de cette année qui est encore un peu neuve. Voilà, tout ce qui est neuf, voilà, c'est beau.